France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Pierre Antaille, je suis né en 1964 à Paris et je suis musicien claveciniste.
Dernier rendez-vous avec Pierre Antaille, chez lui, dans la vallée de Chevreuse. Sur les murs, des œuvres signées Simon Antaille. Alors, ce sont ici des formats raisonnables, contrairement aux toiles gigantesques si célèbres de son père. Les couleurs sont variées, parfois couleur terre, parfois couleur lumière, et ces formes découpées si caractéristiques. On est entouré ici d'œuvres de votre père.
Oui, c'est des petites choses qu'il m'a données. C'est évidemment pas des grandes choses. Puis là, ce sont juste des chutes que j'ai collées sur des cartons. On a toujours été dans la famille entouré de ces œuvres-là. Oui, c'était notre univers.
C'est drôle parce que je vous parlais tout à l'heure des parentés. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très rythmique, finalement. Quand on regarde, je trouve qu'il y a quelque chose qui danse, il y a quelque chose de l'ordre du rythme. C'est pas que je veuille forcément tisser des liens, mais je me dis qu'il y a quelque chose. Lui qui aimait beaucoup aussi la musique, pour qui c'était important, le fait que 3 sur 5 des enfants deviennent musiciens et d'être baigné là-dedans, peut-être que...
Il y a un aspect qui est très important et dans son travail qui est le laisser faire, puisqu'il a décidé de peindre à l'aveugle, c'est-à-dire de nouer la toile et découvrir le résultat une fois fini pour une grande partie de son œuvre. Et ça, c'est un aspect qui trouve une résonance en moi, ma manière de travailler déjà, ne pas tout prévoir, mais laisser une grande partie de découverte pour moi-même, c'est-à-dire souvent je monte en scène, je ne sais pas ce que je vais jouer, et ça s'impose à un moment, et puis ça tourne d'une façon ou d'une autre, et je le découvre et je réagis, mais ça m'intéresse beaucoup cet aspect-là. Et puis chez mon père, il y a évidemment pour moi une spiritualité qui pense le plus parlant.
Ça me donne envie de vous entendre un petit peu parler sur une parenté quand même entre la musique et les couleurs. Par exemple, là, je me demandais dans quelle mesure est-ce que les couleurs ne sont pas plus vives quand il y a des silences, à la manière de la peinture, que le blanc révèle quand il y a une couleur à côté.
Alors, chez Scarlatti, c'est surtout l'avènement d'une nouvelle couleur qui crée le contraste. Bien que chez lui, il y a des interruptions théâtrales. Moi, je ne les vois pas comme des couleurs. J'ai l'impression que le silence en musique est plus de l'ordre du théâtre, comme dans la musique d'Allemagne du Nord, du Stilus Fantasticus, que Bach a beaucoup utilisé dans ses propres œuvres. Et donc, effectivement, le silence se fait... Enfin, le caractère du silence vient de ce qu'il y a eu précédemment. Donc, une note douce ou une note forte, donc une exclamation agressive suivie d'un silence, évidemment, ça donne au silence un effet très très fort, et l'inverse est vrai.
Vous n'avez pas peur de vous laisser surprendre, en fait. Vous aimez plutôt ça.
Je veux être surpris. Comme j'aimerais aussi être surpris par les jeunes qui arrivent, les jeunes clavecinistes. Et alors là, on touche la question de l'enseignement. Je me suis, pour différentes raisons, retiré de l'enseignement peu à peu. J'ai eu assez jeune des élèves, j'ai enseigné très tôt. Et puis, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai été pressenti, approché, disons, pour être le... professeur au supérieur de Paris, concertant supérieur de Paris. Mais j'étais très réticent, parce que justement je ne connaissais pas ce monde-là, je voyais les dangers, toute cette programmation, ce caractère sportif des choses, l'administration, tout ça, ça ne me convenait pas. Et puis j'ai fait une espèce d'intérim d'un an, en disant que j'allais j'allais décider en cours de route, voilà, si, parce que je ne voulais pas m'engager auprès des élèves et puis le laisser tomber après. Et finalement, au bout d'un an, pour des raisons qui m'échappent, mais qui sont un peu de l'ordre de la politique, j'imagine, j'ai été viré. Je l'ai très mal pris, parce que c'était pas moi qui avais fait cette démarche de venir au conservatoire. Et à partir de là, j'ai un peu perdu tous mes élèves, parce que les gens étaient venus en pensant que j'allais être le prof. C'était inscrit dans la classe, et tout à coup, ils se trouvaient au pied du mur. Le prof n'était pas celui qui était prévu. Et je pensais qu'ils allaient démissionner, parce que dans ma génération, on aurait démissionné, c'est-à-dire les jeunes, moi c'est un peu différent, mais j'ai pas mal de collègues, Christophe Rousset, Isabelle Joyer et d'autres, qui s'exilaient, qui ont été en Hollande, et puis il y a des gens qui venaient d'Amérique du Sud, du Japon. Les gens voyageaient pour un idéal, parce qu'ils avaient choisi une esthétique, un prof, ils savaient ce qu'ils voulaient. Et là, j'étais face à un public qui était tout à fait similaire, de gens qui étaient bons musiciens, mais qui ont préféré rester au conservatoire, j'imagine, par crainte de l'avenir, parce que les temps ont changé, voilà. Et du coup, je me suis trouvé coupé des élèves. Et c'était une très très bonne leçon, parce que ils ont compris que je n'étais, leur étais pas indispensable. Et j'ai compris la même chose au même moment. Je dois dire que quand même, l'enseignement, en tout cas dans une école, me pose problème quand il s'agit d'un répertoire du passé. C'est-à-dire d'une culture qui s'est complètement interrompue, qu'on essaie de retrouver, mais qui s'est complètement interrompue. Il n'y a plus de tradition. La soi-disant tradition du conservatoire que défendaient les profs dans le temps, elle n'existe évidemment pas. La tradition, c'était une lente dérive qui s'éloignait énormément de l'original. Mais maintenant qu'on sait qu'on ne sait rien, c'est très difficile d'avoir un élève semaine après semaine à côté de soi à qui on dit « il faut faire comme ça hein, jusqu'à l'examen ». Une trop grande régularité nuit à la liberté. Je pense qu'il vaut mieux des espèces de petits chocs comme ça, esthétiques, des petits moments qui apprennent beaucoup plus à un jeune que d'écouter religieusement son professeur.
Est-ce que vous diriez aussi que cet esprit qui était celui de la première génération des Baroques, des Arnoncourt, des Léonard, etc., de votre génération aussi, vous évoquiez Christophe Rousset, vous-même, et il y en a voilà, évidemment beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais est-ce que génération après génération, en fait, cet esprit, cette quête, cette envie, cette soif de chercher et de se poser des questions se perd? Est-ce que c'est un peu ça le corollaire de ce que vous êtes en train de nous dire?
Je ne sais pas. La musique baroque, c'était un peu une institution. Maintenant, c'est un peu un tiroir de plus avec une étiquette dessus. Il suffit de regarder les programmations des salles de concert, musique baroque, musique classique, musique jazz. Musique... Moi, je ne fais pas ces distinctions-là. Je ne fais pas de musique baroque. Je joue la bonne musique pour mon instrument. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a trop de musiciens. Dans tous les domaines, il y a trop de musiciens. Donc, ils essayent de s'en sortir par tous les moyens. Et les moyens actuels, mon Dieu, sont assez repoussants. Enfin, c'est-à-dire même... J'ai appris qu'au Conservatoire de Paris, maintenant, il y a des cours de marketing. Et il y a les mêmes au Conservatoire d'Amsterdam. Et j'imagine qu'il y a partout en Europe, c'est pareil maintenant. On apprend aux musiciens à se vendre. Imaginez-vous ça, des cours où on doit aller voir quelqu'un avec des photos. Non, ta photo n'est pas assez bien. C'est ringard, je ne sais pas, tu devrais mettre ce vêtement-là. Et où est la musique là-dedans? C'est-à-dire, le jeu est des deux côtés, parce que j'ai vu aussi des cas de gens, oui, qui attirent l'attention avec un détail. J'ai vu un truc sur un chanteur, un nouveau chanteur qui a une... C'est formidable, non seulement il chante des airs de Handel, mais en plus il danse le hip-hop. Et puis il a des chaussures rouges. Alors...
Mais je vois qu'il vous dit ce qu'il vous pensez, il chante bien quand même.
Il chante bien. Mais les chaussures n'ont rien à voir là-dedans, justement. Et on sent bien que le chanteur en question met des chaussures rouges pour plaire aux journalistes. Et le journaliste tombe dans le piège. Donc le chanteur a eu raison d'attirer l'attention avec ses chaussures rouges.
Scott Ross, qui était tellement différent, est-ce qu'on est tous tombés dans le piège?
Alors c'était une autre époque, il choquait vraiment. Il choquait de manière authentique, ou du moins il se moquait complètement de lui, qu'en dira-t-on. Voilà.
Pierre Antaille, vous avez d'une certaine façon beaucoup développé ces dernières années aussi une carrière de soliste. Est-ce à dire qu'il y a une nécessité d'un travail quotidien, d'une forme d'ascèse qui fait que ce que vous faisiez peut-être davantage au début, de partir 3 semaines en tournée, de faire peut-être plus du continuo ou des choses comme ça, c'était... À un moment, c'était plus possible de faire tellement les deux en même temps. Est-ce que vous avez à un moment eu le sentiment de faire un choix ou pas? En même temps, il y a le concert français aussi, donc c'est pas, vous n'êtes pas que soliste, mais on sent quand même qu'il y a une.
Non, mais la vie fait les choix pour vous. Quand j'ai eu mon premier fils, j'ai décidé d'arrêter l'orchestre. J'ai arrêté avec Sigiswald, avec la petite bande, parce que les tournées d'orchestre, c'est toujours au moins 3 semaines, 1 mois, loin de la maison. Et aussi, c'est très mauvais pour le travail, puisque je voulais jouer des pièces solistes. C'est très compliqué de travailler. C'est pas 5 minutes ici et là, dans une fosse d'orchestre qui vous aide à travailler. Donc j'ai arrêté. Enfin, c'était un choix, comme ça. Après, moi, j'ai le modèle de Leonhardt, qui n'avait pas d'agent. Il n'y a jamais eu d'agent. Enfin bon, dans certains pays, il y avait quelqu'un qui organisait les séries de concerts, mais on lui écrivait ou on lui téléphonait, il répondait poliment, et puis il disait « oui, je suis libre, ce sera temps ». Et puis on s'occupait des problèmes de voyage, il arrivait. Donc j'imaginais que le monde existait sans agent. Donc j'avais pas d'agent pendant très longtemps, et le téléphone sonnait. Après, le téléphone a sonné un peu moins parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de concurrence. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc, le point où j'aurais eu trop de concerts et eu besoin de choisir, n'est jamais arrivé. Voilà. il y a des embouteillages, des moments où il y a trop de concerts, il y a des moments où il n'y a rien. Et c'est comme ça. Mais c'est évidemment pas idéal, c'est pas un rythme idéal. Pour moi, le rythme idéal serait celui où je produis suffisamment souvent pour que mon travail marche en parallèle. C'est-à-dire, autant je déteste donner un programme un an à l'avance parce que je ne sais pas ce que je voudrais jouer dans un an, autant je voudrais arriver naturellement dans un an avec un programme qui s'impose de lui-même parce que je travaille et que j'essaye des choses soir après soir devant les gens.
France Musique, les grands entretiens de Pierre Antaille.
J'ai lu à un endroit, Pierre Antaille, que vous disiez que l'exigence faisait souffrir et que du coup, le plaisir était difficile dans la musique. Vous rediriez ça encore aujourd'hui ?
Ce qui fait souffrir, malheureusement, c'est d'aimer le beau. Plus on affine l'oreille et plus on souffre. Des cochonneries qu'on entend ici et là. Enfin, oui, malheureusement, c'est ça. Si on affine son œil, on souffre des destructions des paysages, des villages. On souffre. Voilà.
Et l'aspiration, la transcendance est un remède à cette souffrance. Sans vous parler souvent de la religion, est-ce que vous-même, vous avez une piété particulière ou c'est la religion du beau, justement ?
Non, ma religion, c'est l'art. Oui.
Vous avez gardé cette pratique de la peinture ou du dessin ou pas du tout ?
Non. J'ai compris assez vite que être peintre, c'était avoir vraiment, pas seulement une pratique, une technique, mais avoir une idée derrière. Et c'était pas mon cas. J'étais plongé dans les livres de peinture. Je faisais des copies de Dürer ou Holbein, mais j'inventais des petites choses. Mais j'ai pas voulu continuer. Tout de même, la musique m'a happé.
Et finalement, des 5 enfants que vous étiez, vos parents n'ont pas eu d'enfants qui ont pratiqué tellement la peinture pour un couple de peintres.
Non, c'est vrai. C'est ainsi, mais encore une fois, je vous l'ai dit, mon père prenait toute la place avec son activité. Donc je pense que c'était un peu difficile. Je pense même qu'il était soulagé quand j'ai arrêté la peinture, parce que j'étais doué pour ça, mais ça aurait compliqué les choses.
Il est venu vous écouter en concert.
Il est venu. Il comprenait pas qu'on puisse jouer plusieurs fois la même chose au concert. Pour lui, il fallait toujours travailler, aller de l'avant. Je pense qu'il aurait aimé aussi qu'on soit intéressé par la musique contemporaine, qu'on qu'on fasse avancer la musique d'une certaine manière. Voilà, mais il était aussi fier des succès de ses enfants, comme tout père. Alors que pour lui-même, il refusait ostensiblement le succès.
Les honneurs.
Les honneurs, c'est-à-dire le, oui, la célébrité, enfin tout ce que tout le monde désire, quoi. Au moment où le succès arrive, il a décidé d'envoyer balancer tout ça. C'est comme ça.
Et il se sentait incompris, et vous le compreniez
ou... Il se sentait incompris dans le sens où il se battait contre une dérive que prenait le monde de l'art, avec le marché de l'art, avec la façon dont travaillaient les institutions. Donc c'est pas qu'il se sentait incompris, il ne convainquait pas les autres de la nécessité de tout arrêter.
Vous ressemblez beaucoup à votre père, non?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Certainement par certains aspects, il y a des choses que je refuse, oui. En tout cas, je refuse de ne pas être exigeant avec moi-même.
Une forme de radicalité et de soif d'idéal aussi.
Oui, oui, bien sûr. Mais cet idéal, il est dans cette musique que je joue. Je joue des musiques de personnes hautement exigeantes. Et peut-être j'ai aussi avec l'âge une conscience de ce que je joue. Plus grande, c'est-à-dire enfant, quand on découvre une musique, c'est pur plaisir. Voilà, la musique de Bach, pour moi, c'était pur plaisir. Alors que maintenant, j'ai conscience à la fois de la grandeur de ces choses, de l'importance de ces choses, et je souffre, c'est vrai, du manque d'intérêt de la plupart des gens pour ces choses essentielles pour nous, qui me semblent essentielles et hautement précieuses, donc finalement assez fragiles.
Qu'est-ce que vous nous joueriez si nous devions nous quitter là maintenant dans votre salon? Ce serait quoi l'inspiration?
Une sarabande qui existe pour le violoncelle ou pour le luth.
Par un jour pluvieux de septembre, Pierre Antaille, dans son salon, au milieu des toiles colorées de son père, jouait pour nous cette sarabande BWV 995 de Jean-Sébastien Bach. Un grand merci à lui pour ce cadeau. Réalisation de cette série, Lionel Quentin. Prise de son, Arthur Gerbeau. Mixage, Valérie Lavalard. Attaché de production, Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.